Chapitre 20. La baguette magique. Ses traits et d'autres semblables, loin d'indisposer contre Mina sa famille adoptive, ne faisaient au contraire que confirmer Justin et sa sœur dans la bonne opinion qu'ils avaient du cœur de la petite orpheline. Au lieu de la blâmer, ils l'encourageaient donc à suivre l'impulsion de sa charmante nature qui jetait quelques rayons de gaieté dans la maison. Ils eussent voulu lui faire de tous ses travaux un plaisir, de tous ses jours une fête. Ils savaient bien, à ses cœurs purs, que l'enfance est un dimanche éternel. Mais la mère était aveugle, la sœur souvent malade, tous trois besogneux. Les parents ne pouvaient que donner leur tristesse à la petite fille. Ce fut donc elle qui, par la grâce de Dieu, leur donna sa gaieté. Elle finit par prendre dans la maison un si grand empire qu'il en fut de la maison comme il en est de la nature au sortir de l'hiver. D'abord nue et désolée, elle sembla renaître à la vie, et peu à peu, sous une sève invisible, reprit des bourgeons, des feuilles et des fleurs. Le maître d'école, malgré les efforts du vieux professeur, et quoique, selon l'expression de celui-ci, il eût coudoyé le monde, le maître d'école avait succombé dans cette lutte entre sa conscience et ses goûts, entre son devoir et ses désirs. Il était, comme l'avait prédit M. Müller, fané au beau milieu du printemps de sa jeunesse. En 3 années, il avait vieilli de 10 ans. Ce fut le contraire pour la petite Mina. À son contact, la famille se rajeunissait. C'était le propre en effet de l'insoucieuse enfance de raviver et de rajeunir tout ce qui l'approchait. Partout où traîne sa robe blanche, l'herbe pousse, les boutons fleurissent. Il y avait 2 ans à peine que la petite Mina était dans la famille du maître d'école et déjà la maison avait subi une transformation complète. Une fois, elle avait été se promener dans la plaine de Montrouge, et dans cette plaine aride, elle avait trouvé moyen de découvrir une 12aine de touffes de pâquerettes et de violettes sauvages. Elle les avait déracinées avec un couteau, les avait mises dans son mouchoir, les avait rapportées à la maison, et Madame Corby avait été bien émue de sentir sous sa main 2 pots de fleurs qui lui rappelaient ce soleil qu'elle ne pouvait plus voir. Une autre fois, c'était 2 rosiers nains qu'un jardinier du voisinage lui avait donnés. Elle les avait mis dans 2 verres à boire et les avait déposés sur la cheminée de Justin, tandis qu'il était sorti. Le soir, le maître d'école les avait trouvés à son retour et il avait ressenti une bien douce émotion en regardant ces roses qui lui rappelaient qu'il y avait autour de Paris un printemps à la robe fleurie dont il ne pouvait pas jouir. La sœur Céleste avait eu aussi sa surprise. 2 ou 3 fois, devant l'orpheline, elle avait manifesté le désir d'avoir un petit chat, ne fût-ce que pour la distraire, en emmêlant son fil, toujours si bien démêlé. Un soir, elle fut bien étonnée, lorsqu'elle leva son oreiller, de voir sortir de son lit un petit chat tout blanc avec un ruban bleu au cou. C'était encore Mina qui avait découvert ce chat et qui lui avait fait un collier avec sa ceinture. Chaque jour, c'était une imagination nouvelle. Tout le génie inventif de l'enfance s'était concentré dans cette blonde tête. On eût dit que, pareil aux zéphyrs, elle ne respirait que pour ranimer le printemps et faire fleurir autour d'elle les roses et le jasmin. Aussi ne voyait-on plus que par elle et ne s'entretenait-on plus que d'elle, Mina par-ci, Mina par-là. Comme une note agréable et qui plaît à tout le monde, on entendait son nom retentir du haut en bas de la maison. Si l'on avait un achat à faire, on s'en rapportait à son goût, un parti à prendre à sa décision, un projet quelconque à accomplir à sa volonté. Elle était souveraine arbitre du petit état, elle gouvernait ses 3 sujets avec son bon sens, son bon cœur et sa gaieté. Aussi tous 3 sentaient-ils et reconnaissaient-ils l'influence bienfaisante qu'exerçait sur eux cet enfant. La mort d'un des 3 membres de la famille n'eût pas causé plus de douleur aux 2 survivants que le départ de la petite fille ne leur en eût causé à tous les 3. Ils l'appelaient l'ange de la gaieté. Et en effet, c'était un enchantement de toutes les heures. Un jour où elle était allée au bois de Meudon avec M. Müller et Justin, c'était un dimanche bien entendu, elle aperçut à 12 pieds sous une branche, collée comme d'habitude au corps de l'arbre, un nid de pinson. Sa convoitise s'éveilla aussitôt, et elle entreprit de prouver au vieux proviseur et à Justin que c'était la chose la plus facile du monde que de lui aller chercher ce nid, disant qu'elle savait monter aux arbres et que s'il n'y allait pas, elle allait y aller elle-même. Justin, dans sa jeunesse, avait pratiqué cet art et ne l'avait certes pas oublié au point de reculer devant une si médiocre ascension, mais une attention le préoccupait. Pour monter aux arbres, il fallait en embrasser le tronc avec ses bras et ses genoux, et l'opération ne pouvait se faire qu'au détriment probable de la redingote du jeune homme et de son pantalon. Justin se grattait l'oreille et regardait le nid. Le bon professeur comprit ce qui préoccupait le jeune homme. Il jeta à terre son chapeau à large bord et, s'adossant à l'arbre, joignit les deux mains et s'offrit en courte échelle à son élève. Celui-ci lui demanda pardon de la liberté grande, monta sur ses épaules, leva le bras, atteignit le nid et mit 5 pinceaux entre les mains de la jeune fille qui les reçut en sautant de joie. C'est qu'il y a dans l'enfance une force si irrésistible, une volonté si impérieuse, une telle puissance de commandement qu'il faut absolument lui obéir. Ajoutons que c'est le propre des vieillards d'être plus tolérants pour l'enfance que les jeunes gens, sans doute parce que les jeunes gens sont plus près et les vieillards plus loin de cet âge heureux. Au reste, elle savait bien ce qu'elle faisait, la petite entêtée, en demandant ses pinsons, et ce n'était pas le premier nid qu'elle convoitait. Elle avait trouvé, on savait tout, à la cave ou au grenier, une vieille cage sale et noire qu'elle avait essuyée, grattée, polie, et cette cage mise en état, elle voulait l'utiliser. Elle rapporta donc ses pinsons sans répondre à Justin qui lui disait qu'elle ne saurait où les mettre, et 5 minutes après sa rentrée à la maison, elle arriva dans la chambre du maître d'école toute victorieuse, avec sa cage reluisante et sa petite famille de pinsons emménagés. Mais alors cela lui fit venir une idée qui occupa tellement son petit cerveau avant de se produire un jour, c'était de faire pour la cage de frère Justin ce qu'elle avait fait pour la cage de ses pinsons. Seulement il ne s'agissait plus là de frotter, de laver et de polir, il fallait changer le papier, changer les rideaux des fenêtres, changer les rideaux du lit. La petite y mit un an, elle eut toutes sortes de caprices, et comme Justin ne lui savait rien refuser, tantôt c'était 10 sous pour un ruban qu'elle n'achetait pas, tantôt 20 sous pour un bout de dentelle qui restait chez la marchande. Enfin, de 10 sous en 10 sous, de 20 sous en 20 sous, elle amassa une somme de 70 francs, dont 15 furent employés à mettre un papier gris-perle avec des roses bleues à la place de l'affreux papier terreux, crassé, humide qui attristait l'œil, et 55 à acheter des rideaux de mousseline qui, faits par elle et par sœur Cécile, devenue vers la fin sa complice, remplacèrent les rideaux de serge verte. La métamorphose de la chambre s'opéra en une soirée, grâce à la complaisance d'un marchand de papier qui avait son fils dans la classe de Justin et qui contribua à ce tour de passe-passe pour la pose du papier que 4 ouvriers collèrent sur les murs, tandis que Justin faisait sauter les dandies et les coquettes de la barrière du Maine. Quand frère Justin rentra, il crut qu'on avait fait un reposoir dans sa chambre. Il voulut gronder, quereller, se plaindre. Mina lui présenta ses 2 joues roses et Justin ne sut plus que serrer l'enfant sur son cœur. Et c'était ainsi que, degré par degré, cette triste maison se rajeunissait et s'égayait, comme ses habitants s'étaient égayés et rajeunis. Quand Mina en fut à ce point d'influence, elle déclara la guerre aux vieux livres de musique religieuse et fit tant que Sébastien Bach, Palestrina, Haydn rentrèrent dans l'armoire et que, pour remplacer ces illustres ancêtres qui avaient fait la joie de la jeunesse du maître d'école, Justin rentra un jour tenant des fragments d'une partition d'opéra comique qu'il avait trouvée en bouquinant sur les quais. Qui fut abasourdi, qui pensa tomber à la renverse, ce fut M. Müller qui, en entrant un soir chez Justin, le trouva déchiffrant les principaux motifs de Don Giulistan, cette gaieté en 3 actes. Mais l'enfant déclara, probablement pour satisfaire sa vieille rancune contre le violoncelle, l'enfant déclara que les airs les plus gais lui semblaient lugubres sur cet instrument. Eh bien, jugez à quel point le pauvre maître d'école avait la tête tournée et était prêt à obéir aux caprices de cet enfant. Elle fit tant de taquineries à Justin à propos de son violoncelle, et vous savez, si le pauvre garçon aimait son instrument, mélancolique compagnon de sa vie mélancolique, ce pouvoir tyrannique de la petite Mina fut tel sur lui qu'elle le décida à renoncer au violoncelle. Ah, ce fut un moment bien triste que celui où le pauvre Justin renferma son violoncelle dans la prison de bois à laquelle il était condamné à perpétuité. Vous me direz qu'il lui restait 3 soirs par semaine pour jouer de la contrebasse à la barrière, mais cette musique qui était, pour le pieux maître d'école, de la musique profane au premier degré, était loin de lui paraître une compensation suffisante à ce qu'il perdait en perdant Haydn, Palestrina et Sébastien Bach. D'ailleurs, sans lui rien dire, Mina lui donnait la meilleure raison du droit qu'elle avait de lui imposer ce sacrifice, qu'était pour lui la musique la consolation de son ennui. Qu'avait-il besoin de se distraire puisqu'il ne s'ennuyait plus, d'être consolé puisqu'il n'était plus triste? N'était-elle pas la chanson vivante, elle? Enfin, s'il est juste de dire, comme nous l'avons fait, que les malheurs vont par troupes, il est vrai aussi qu'un bonheur arrive rarement seul. Aussi, un soir d'automne, à la rentrée des classes, Justin ouvrit-il tout simplement à 2 battants la porte de la fortune qui cognait. Elle l'avait pris, la capricieuse déesse, la placide figure d'un notaire de la rue de la Harpe. Vous me demandez naïvement, j'en suis sûr, il y avait donc des notaires rue de la Harpe. Il n'y avait pas des notaires, il y avait un notaire. Ce notaire se nommait Maître Jardy. Il avait 2 fils, lesquels désiraient ardemment faire 2 classes dans une seule année. Autrement dit, sauter l'année suivante par-dessus la classe appelée la 3e, en passant de 4e en seconde. Justin était occupé toute la journée et les 2 jeunes gens l'étaient aussi. Il ne fallait pas penser à des leçons de jour. D'ailleurs, Justin ne pouvait renoncer à sa classe. Ce qui convenait aux jeunes gens, c'était des leçons du soir, 3 par semaine et de 2 heures chacune. Dans ces conditions, la chose allait merveilleusement à Justin. 3 fois par semaine, il faisait danser à la barrière, et ne pouvant plus jouer du violoncelle dans sa chambre à cause de la défense à lui faite par son despote, il avait pris en grand amour cette occupation qui lui permettait de serrer encore de temps en temps sa contrebasse contre son cœur. Une contrebasse n'est pas un violoncelle. La musique de guinguette n'était pas la musique de Beethoven, mais on le sait, nous ne sommes pas dans ce monde pour voir éclore la fleur parfumée de tous nos désirs. Justin offrit au notaire ses 3 soirs de liberté. Le notaire n'avait pas de préférence pour les jours pairs ou impairs. Un notaire de la rue de la Harpe n'a de loge ni à l'opéra ni aux Italiens. Les 3 soirs de Justin furent les 3 soirs de Maître Jardy. Le digne tabellion offrit 50 francs par mois et au bout de l'année un rappel de 50 autres francs si ses 2 fils étaient reçus en seconde. Justin accepta, il s'engageait à forfait, moyennant 100 francs par mois, à faire un miracle. Il fut convenu que, dès le lendemain, Maître Jardy enverrait ses 2 fils. La propreté de cette petite chambre de Justin avait surtout séduit le notaire. Il avait répété 2 fois « La charmante petite chambre que vous avez là, monsieur Pierre-Justin Corby !» En sa qualité de notaire, le magistrat de la rue de la Harpe ne faisait point grâce à ceux à qui il parlait d'un seul de leurs noms. « La charmante petite chambre que vous avez là, il faudra que j'en fasse arranger une pareille à Madame Jardy. » Et qui avait arrangé cette petite chambre si avenante qui séduisait jusqu'au notaire? Mina, l'ange de la gaieté. Aussi, le notaire partit, Justin, sans s'apercevoir que la petite fille courait sur ses 15 ans, la prit-il dans ses bras et l'embrassa-t-il de toute la force de ses lèvres en lui disant « Tu es mon bon génie, enfant. Depuis que tu es entré ici, le bonheur a fait son nid dans la maison. » Et il avait raison de dire cela, le brave jeune homme. C'était une véritable fée, un véritable génie que cette petite fille avec sa baguette magique. « Sa baguette magique, dira-t-on. Vous ne nous en avez pas encore parlé. Au contraire, cher lecteur, au contraire, lectrices amies, nous ne vous avons parlé que de cela. Cette baguette magique, c'était la jeunesse. »